La voix est libre.
Ce que je dis aux Américains, pour beaucoup de Canadiens, incluant moi-même, c'est très difficile de comprendre comment on peut ratifier le nouvel accord quand les tarifs sont toujours en place.
Voici Luc Lavoie.
Luc Lavoie, La Voix est libre, bon coup, mauvais coup du jour, mais juste avant de parler de, je sais pas si c'est ton bon ou ton mauvais coup, tu me disais que le CRTC vient d'émettre une ordonnance.
Ouais, je viens tout juste d'apprendre ça.
Dans le dossier de Bell contre Québécois.
Oui, elle vient d'émettre une ordonnance il y a dans les 15-20 dernières minutes.
Pour obliger la transmission du signal de TVA Sport par les...
Pour dire que vous n'avez pas le droit de retirer le signal, vous vous apprêtez à le faire et nous sommes disposés à prendre... les moyens à notre disposition, nous sommes disposés de prendre les moyens à notre disposition pour faire respecter notre ordonnance.
Puis le CRTC, on s'entend, c'est un organisme administratif qui, dans ce cas-ci, agit d'une certaine manière comme un tribunal. Là.
Oui, effectivement, le CRTC, quand il entre dans le champ juridique, selon la loi, a les pouvoirs équivalents à la Cour fédérale ou à une Cour supérieure.
Un tribunal administratif à ce moment-là.
Oui, non, ça va plus loin. Quand il arrive à l'application des ordonnances, le CRTC devient l'équivalent d'une Cour supérieure, d'une Cour fédérale. Alors...
C'est ça, nouvelle décision exécutoire. Là, on vient de nous apporter le document. Donc, le document du CRTC précise que le signal de TVA Sport doit être fourni au même tarif, selon les mêmes modalités qu'avant, le différent, etc., etc. Et comme tu le disais, le Conseil est prêt à utiliser les moyens à sa disposition pour appliquer sa réglementation. OK, ben en tout cas, ça veut dire que les amateurs de hockey vont voir le match ce soir, en résumé.
Ben on va voir si Québécois va respecter l'ordonnance. Attention, ils vont peut-être la contester aussi. Je sais pas.
OK.
J'ai aucune information en ce sens-là, mais
très bien.
Ils ont l'air partis pour la bagarre.
Oui, ça c'est un fait. Alors, bon coup, mauvais coup?
Ben bon coup, mauvais coup. Je ne sais pas si on va appeler ça bon coup ou mauvais coup, parce qu'on peut le prendre des deux côtés. On veut parler d'abord de l'ALENA.
Ouais.
C'est la nouvelle, le nouvel ALENA,
ben
le
oui.
nouvel accord.
Mais c'est réglé. On l'a signé avec Donald puis les Mexicains. C'est réglé.
Le 30 septembre qu'on a signé
ben
ça.
Oui.
Sauf que ça n'a pas été ratifié par le Congrès. Puis entre le 30 septembre puis maintenant, il y a eu quelque chose qui a changé d'assez important aux États-Unis. La Chambre des représentants a basculé dans le camp démocrate. Et les démocrates ne sont pas satisfaits de l'entente telle qu'elle est.
Mais ce n'est pas le Sénat qui ratifie les accords aux États-Unis?
Ultimement, il faut que ça traverse les deux paliers. C'est le Sénat, ultimement, qui doit le ratifier.
Parce que le Sénat est encore à majorité républicaine.
Il est encore à majorité républicaine.
Mais là, tu es en train de me dire là, que dans le fond, il n'y a rien de réglé dans le dossier de l'ALENA. C'est ça que tu vas me dire?
Il apparaît qu'il n'y a rien de réglé dans le dossier de l'ALENA. On est dans une espèce de marécage incroyable. D'abord, en dehors et en parallèle aux négociations de l'ALENA, Trump avait choisi d'imposer des tarifs assez
salés. 10% et 25%.
Sur l'acier
et l'aluminium.
Et l'aluminium.
Oui.
Les représentants de l'industrie disent que ces mesures-là coûtent à l'industrie 60 millions de dollars par mois. C'est de l'argent, ça, tu comprends?
Oui, ça, c'est nos alumineries, là. Notamment nos alumineries.
Effectivement, oui. Alors, c'est surtout l'aluminium qui fait mal. Alors, le Canada a dit, ben moi, comment je fais pour signer un accord de même alors que d'un autre côté, tu m'imposes des tarifs injustifiés?
Alors que le libre-échange, c'est supposé de mettre fin aux tarifs.
Mais d'un autre côté, tu as la ministre Chrystia Freeland qui dit, moi, je veux pas réouvrir la négociation parce que c'est une boîte de Pandore, on sait pas ce qui va nous sauter d'en face.
C'est sûr, ça, Luc. Ah, si tu commences à rouvrir une entente, là...
Comme celle-là, mon
Boboy!
On ouvre tout, là. Mais l'autre côté qui est agréable à l'heure actuelle, c'est que le Canada, dans ses relations commerciales avec les États-Unis, opère en vertu de l'accord tel qu'il était en place avant le début des négociations.
Ouais.
Donc, ça fait notre affaire. Sauf que Trump a l'épée de Damoclès, pour ne pas dire le gun dans sa main. Là. Il peut décider de mettre à exécution sa menace de déchirer l'accord de l'ALENA, l'original. Alors, on est dans une drôle de situation. Le Mexique était content. Le Canada y allait un peu à reculons quand on a signé. Trump a été triomphant.
Ben oui.
À l'heure actuelle, il apparaît qu'il n'y a à peu près pas de possibilité que ça traverse le vote de la Chambre des représentants avant de s'en aller au Sénat. Alors, on se retrouve dans une situation bizarre. Les tarifs sont toujours en place dans le cas de l'acier puis de l'aluminium. L'accord tel que négocié n'est pas en force parce qu'il n'a pas été approuvé. Au Canada, c'est un processus beaucoup plus simple. C'est le gouvernement qui ratifie. Puis il y a une loi qui doit être adoptée par la Chambre des communes pour donner action.
Pour mettre en œuvre, dans le fond.
Oui.
Mais projetons-nous dans l'avenir, Luc. Faisons un peu de politique fiction. Parce que d'abord, avant de la faire, je veux juste vous rappeler, là, l'accès au marché américain, là, c'est entre, dépendamment comment vous comptez, là, mais entre 30 et 50 de tous les emplois chez nous.
Ouais.
Okay, je vous le dis, là, les auditeurs.
Au Québec, hein?
Tu sais, les auditeurs, si vous pensez que le libre-échange, c'est une affaire qui est loin de nous autres, là, puis dans le fond, là, c'est une patente qui joue entre les chefs
c'est
d'État.
C'est
ésotérique. Tu sais, non.
C'est des gros dollars, des gros.
C'est des gros contrats, c'est des grosses ventes. T'sais, tous les camions que vous voyez passer qui font un trou partout sur les autoroutes, là, souvent, ils transportent des marchandises qui s'en vont aux États-Unis.
Ben oui, c'est des jobs.
C'est nos jobs.
Oui,
c'est nos jobs. Bon,
c'est important. Nous avons une économie dépendante du commerce pour une raison extrêmement simple. On n'a pas une très grande population.
Bingo.
On a un marché intérieur trop petit.
Bon, alors j'allais te poser la question. Projetons-nous. Mettons qu'il n'y a pas de ratification d'ici les prochaines présidentielles américaines. Mm-hmm. C'est pas impossible.
C'est pas impossible. C'est même...
De plus en plus probable.
Moi, je dirais 50-50.
Bon, ben alors... Mettons que Trump est réélu.
Ouais.
On peut penser, quoique il n'y a rien à son épreuve, mais on peut penser qu'il va vouloir que l'entente qu'il a lui-même négociée, ou en tout cas qui s'est négociée sous sa présidence, soit ratifiée. Auquel cas, on ne perd rien à attendre.
Ouais.
S'il est battu puis remplacé par un démocrate, est-ce qu'on peut penser que ce qui a été renégocié, finalement, ne serait pas nécessairement ratifié puis on resterait avec l'ALENA 1.0? L'ALENA actuel plutôt que le nouvel ALENA négocié avec les Mexicains et les Américains?
C'est une drôle de situation que Trump a tout bouleversé en politique. Traditionnellement, les démocrates sont ceux qui se sont opposés au libre-échange.
Oui. Okay?
Puis il y a des secteurs de l'activité économique américaine, par exemple les producteurs laitiers, hein, qui eux autres étaient contents du nouvel accord parce qu'ils gagnaient là-dedans puis les nôtres perdaient.
Ah oui.
Mais ça, là, ils vont se coller sur les démocrates comme... Bon, alors, qu'est-ce que les démocrates feraient? Ils pourraient choisir de dire, hey, écoute, ça fait assez longtemps que ça dure les guerres commerciales, on pourrait-tu changer de sujet, là? Parce qu'il n'y a pas seulement une guerre commerciale.
Donc, on garde l'accord négocié avec Trump. On garde l'accord négocié avec Trump, puis on le vote.
Oui, puis ben non.
Non?
On garde l'accord qui était là en place. L'accord, l'ALENA...
L'actuel, dans le fond.
C'est ça qui pourrait arriver avec les
démocrates. Mais nous, on est gagnants si on garde l'actuel.
On
s'entend que l'actuel est mieux que le nouveau.
Ben, à l'heure actuelle, nous sommes gagnants. Parce que le nouveau ne s'applique pas. Mais le problème, c'est que Trump dispose du pouvoir de mettre fin à l'ALENA 1.0. Puis il n'est pas capable de faire passer l'autre à la Chambre des représentants.
Donc là, on pourrait se retrouver dans une espèce de trou noir, c'est le cas de le dire.
Il est
à la mode, là.
S'il décide de le jeter à la poubelle, là, l'accord qui est toujours en place, là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. On revient à...
Ben là, la question... Il y a des juristes qui disent que l'entente négociée entre Reagan et Mulroney à ce moment-là deviendrait l'espèce d'entente de facto.
Non. Si les démocrates choisissent de mettre fin à la guerre aux guerres commerciales avec la Chine, avec l'Europe, avec le Canada, parce qu'ils veulent avoir un peu de paix, là, si jamais ils gagnent la Maison-Blanche, on est dans l'hypothèse.
À l'heure actuelle,
je les vois pas gagner la Maison-Blanche. Mais disons qu'ils gagnent la Maison-Blanche, là, ils pourraient dire, regarde, je suis tanné des guerres commerciales, on tourne la page, puis dans le cas du Canada, on n'avait pas vraiment de problème, on n'était ni gagnant, ni perdant.
Fait qu'on garde l'ALENA 1.0.
Voilà. Mais si jamais Trump déchire l'accord 1.0, c'est là que ton argument est valable.
Oui.
C'est-à-dire que l'accord Reagan-Mulroney, qui était d'abord un accord bilatéral impliquant uniquement deux pays, redevient en place. Et là, il faudrait qu'il décide de déchirer deux s'il veut aller jusqu'au bout de sa logique. Et là, ça exclurait le Mexique du jeu, évidemment. Mais le Canada, dans ça, c'est pas fait beaucoup. Comment dire? Le Canada n'a pas développé d'atomes crochus avec le Mexique dans cette affaire-là. Hein? Parce qu'à un point donné, là,
ils ont largué. Ils ont négocié dans notre dos.
Ben, complètement, oui. Et là, c'est pas un beau moment pour fonctionner là-dedans. Mais à l'heure actuelle, par défaut, nous sommes gagnants au moment où on se parle. Dans 6 mois, est-ce que Trump aura fait une crise et tiré la plug? T'sais, parce que moi, ce que j'ai appris de Trump... Premièrement, ce qui est imprévisible.
J'allais dire.
Mais d'un autre côté, quand il extrait le jus d'une affaire, là, il a tout extrait ce qu'il pouvait extraire de l'ALENA. Il a toujours dit, voilà, puis c'est le pire accord de l'histoire, puis patati patata. Puis personne n'en parle. Ça y tente moins, là. Il a fait son show. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais oui. Show. Non, mais il a besoin de la lumière, constamment, de l'attention médiatique.
Il est parti sur une autre traque, là. C'est le rapport Mueller qu'il dit ne pas avoir lu. Contiendrait des preuves que la campagne présidentielle de Trump a été espionnée systématiquement par le FBI. parce que, justement, ils avaient commencé une enquête sur l'ingérence russe, puis ils se sont dit, oups, ça se connecte vers Trump, puis ils se sont mis à espionner la campagne.
OK, mais si c'est alors, vrai, Trump, si c'est vrai, Trump va se servir de ça?
Ben, il a commencé aujourd'hui, là.
C'est
là,
sûr.
Là, il dit, il y a eu une tentative de coup d'État menée par les services de sécurité des États-Unis contre la campagne républicaine.
Ben, si t'étais à sa place, tu dirais quoi?
Oui, mais regarde, là, il y avait un problème, OK? L'ingérence russe.
Oui, oui, oui.
Ils ont sonné, je parle des
services secrets.
Les services de sécurité. Non, ouais. Les services de sécurité en général. FBI, CIA, tout ce que tu veux.
Okay. Ouais. Okay?
Ils ont tiré la sonnette d'alarme partout à Washington. Ils ont dit, faites attention parce que c'est quelque chose d'assez incroyable à quel point c'est massif l'intervention.
Oui, oui, on s'en souvient. Obama l'avait dit publiquement,
oui,
ça.
Absolument. Alors, eux autres, ils faisaient leur job. Puis leur job les menait à penser qu'il y avait du monde dans l'entourage de Trump qui était branché avec les Russes. Alors, s'ils n'avaient pas surveillé, est-ce qu'ils n'auraient pas fait leur job? Je le sais pas.
Mais ils ont fait le job.
Ben oui.
Ils ont fait le job.
Sauf que Trump, il s'en fout.
Mais c'est parce que politiquement, Trump a intérêt à utiliser ça.
Ah, écoute, hein,
on s'entend?
Écoute, c'est comme.
OK. Alors, parlant
de. Dynamite.
Oui, puis dynamite. Alors, après la pause.
Oui.
On n'abuse pas de ça, mais là, le premier ministre d'Israël vient d'être réélu.
Oui.
Netanyahou. Mm-hmm. Pas mal de monde pensait qu'il allait finalement être battu.
Je ne pensais pas, moi.
Bon. Et là, moi, je voulais qu'on discute ensemble, parce que c'est important. Cette région-là, ça reste une région volatile. Une région explosive. Netanyahou, on sait qu'il rêve d'en découdre avec l'Iran. Mm-hmm. Et moi, je me suis dit... Luc, il faut prendre quelques minutes pour faire le point sur l'élection israélienne puis l'impact que ça peut avoir sur
la paix
ou les risques de friction, de tension, sinon de conflit au Moyen-Orient, puis ça finit toujours par rattraper.
Bien sûr.
Drainville PM. La voie est libre.
OK, Benjamin Netanyahou va être...
Benjamin.
OK, d'abord. Benjamin.
Mieux connu
alors,
comme étant Bibi.
Voilà, exactement. Sera, selon toute vraisemblance, reconduit au poste de premier ministre, parce que c'est lui qui est le plus susceptible de former un gouvernement de coalition.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, en passant, là, c'est la proportionnelle pure.
Ah oui.
Alors, il y a une multitude de partis. À 3,75% du vote, t'obtiens un siège. Alors, tous ceux qui
vont... Non, c'est une prime aux extrêmes.
Ouais,
hein, c'est beaucoup de petits partis.
Alors, il a battu de justesse au vote son principal opposant, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Barry Gantz.
Qui était un peu plus modéré.
Nettement plus modéré.
Centre-droit.
Tandis que Netanyahou, évidemment, et Netanyahou, lui, il s'est dirigé de plus en plus vers la droite.
Mais écoute, il a fini la campagne en disant qu'il allait annexer les territoires occupés de la Cisjordanie.
C'est le
territoire, dans le fond, des Palestiniens sur lequel ils pourraient, devraient éventuellement constituer
l'État. Ben, ce sont des territoires occupés militairement selon le droit international. Selon tous les pays du monde, à part, je pense, l'Afrique du Sud.
C'est ça.
À l'heure actuelle,
leur occupation est interdite.
Est interdite. Et c'est militaire. Une occupation militaire qui remonte à 1967. Alors, ça. Là, il a annoncé que c'était un fait accompli. Il n'a pas encore adopté de loi. Je ne sais même pas s'il faut qu'il en adopte une, mais il a dit les territoires occupés sont maintenant annexés.
Ça veut dire...
Le plateau du Golan est également annexé.
Ça veut dire quoi, là? Ça veut-tu dire qu'ils vont devenir des citoyens de seconde zone dans un pays qui va s'appeler l'Israël élargi? Qu'est-ce que ça veut dire? On s'entend qu'ils ne donneront pas aux Palestiniens qui habitent dans les territoires occupés les mêmes droits politiques et civiques qu'aux citoyens.
C'est vrai partout en Israël, là. C'est vrai partout en Israël.
C'est-à-dire que tu as des Israéliens arabes qui ont des droits?
Oui, ils ont des droits, mais ils ne sont pas les mêmes que les Israéliens juifs.
Non, il y a une forme d'apartheid.
Il y a une forme d'apartheid qui est en place. Il ne faut pas le dire parce que j'entends mes amis de la communauté juive s'énerver quand j'entends dire ça, le fait est que il y a plein de droits que les Arabes n'ont pas. Finalement, ça ne changera pas grand-chose à leur vie en Cisjordanie. Parce qu'il faut savoir que la Cisjordanie, les fameux territoires occupés, la Galilée, tout ça, c'est une zone très prospère. Et les Arabes en bénéficient. Il faut aussi tenir compte de tous ces facteurs-là. Cisjordanie, après l'annexion, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans la vie
des
Arabes.
Non, mais le problème, c'est que si tu fais ça, ça veut dire que c'est fini, la solution à deux États. Là,
c'est fini.
L'idée d'un accord de paix éventuel entre Palestiniens et Israéliens, c'est terminé.
Oui, puis la menace qui pèse constamment contre Israël devient de moins en moins... comment dire, intimidante et immédiate.
Ouais.
Pourquoi? Ben parce que il y a une guerre civile qui se déroule sous nos yeux entre les sunnites, qui sont la majorité, et les chiites, qui sont regroupés autour de l'Iran, puis 40% de ce qu'était l'Irak. C'est ça là, qu'on
voit. Tu dis le monde musulman, là, sinon le monde arabe, là, mais parlons du monde musulman, est en guerre.
Les deux factions sont en guerre
contre lui-même. Et donc, le conflit israélo-palestinien...
Contre lui-même, il ne le voit pas comme ça. Fais attention. D'abord, les Iraniens ne sont pas de l'ethnie arabe.
Non, je comprends, mais c'est des musulmans.
Ce sont des musulmans chiites.
Voilà.
Et qui est une branche dissidente.
C'est ça, mais ce que je te dis, c'est que les musulmans sont en guerre les uns contre les autres.
Oui, exactement.
Et donc, le conflit israélo-palestinien a comme pris un peu la...
Ben, c'est-à-dire que ça va plus loin que ça, Bernard.
Le siège arrière.
Ben, tu vois... Je veux pas prolonger ça inutilement, mais historiquement, le phare, le cœur du monde musulman arabe, c'était l'Égypte.
Bien sûr.
Tout passait par l'Égypte, militairement, économiquement,
culturellement, de la doctrine, tout.
L'Égypte s'est retrouvée dans une situation économique catastrophique. Elle l'est toujours d'ailleurs, surpopulation, tout ce que tu veux.
Ils n'ont pas de pétrole.
Puis l'Arabie saoudite, qui était un pays de nomades, avec une famille qui possédait la terre, les El Saoud, eux autres, ils ont décidé, c'est nous qui vont remplacer l'Égypte dans le cœur du monde arabe, du sunnite. Et parce que c'est ici qu'on trouve la Mecque, c'est ici qu'on trouve Médina, tout ça. Alors, c'est nous. Alors, l'Arabie saoudite a lancé des guerres tous azimuts contre tout ce qui peut les menacer dans leur hégémonie, et ils se sont fait un nouvel allié, Israël, ce qui était impensable il y a 10 ans. Il y a 20 ans, c'était encore plus impensable. Pourquoi? Je vais te confier une chose que les gens n'aiment pas dire, c'est que les pays musulmans arabes de cette région en ont soupé du problème palestinien, veulent plus entendre parler du problème palestinien, considèrent que c'est une épine dans le pied pour eux-mêmes. Je parle des pays sunnites essentiellement. Parce que, disent-ils, écoute, ça fait tellement longtemps que le soi-disant droit au retour vers ces terres est inacceptable. Je parle comme eux, là, c'est pas moi qui le dis, là. Et ils disent, écoute, c'est fini cette histoire-là.
On s'est cassé le nez.
C'est réglé, cette affaire-là, là, OK? Puis il faut savoir que les grandes fonctions publiques des grands pays de cette zone-là, ceux qui dirigent les grandes sociétés pétrolières, les organisations financières...
T'as beaucoup de Palestiniens?
Presque tous des Palestiniens. Pourquoi? C'est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi plus tous des Palestiniens? Parce que les Palestiniens, quand ils se sont fait pousser dans des camps de réfugiés en 1947-48, puis après en 56, puis après en 67, puis après en 73, sont allés dans des camps de réfugiés où? En Jordanie. La Jordanie n'avait pas les moyens de les faire vivre, mais l'Arabie saoudite payait derrière. Puis le meilleur moyen de tenir tout ce monde-là tranquille, c'est que les États-Unis ont pris des mesures pour qu'ils viennent étudier. Bon, ils vont venir étudier, puis ils vont devenir du monde solide. Puis ils sont allés étudier dans les grandes universités américaines et européennes. Alors, ce qui était...
T'as une élite.
Il y a une élite palestinienne dans tous ces pays-là qui fait que l'amour des Palestiniens qui a été professé officiellement pendant des années, il n'est même plus professé. Alors, Israël se tourne. C'est un pays ultramoderne, Israël, disposant des méthodes d'armement, des systèmes d'armement les plus modernes au monde. Mm-hmm. Pour l'Arabie saoudite, ça vaut quelque chose, ça. Hein? Alors là, ils sont ensemble. Arabie saoudite, Israël.
Et ils ont un ennemi commun. Il n'y a rien comme d'avoir un ennemi commun.
Il
n'y
a rien comme avoir un ennemi commun, c'est l'Iran. Puis tout ce qui tourne autour du monde perse. Le monde perse, là, ça inclut la Syrie. Pourquoi la Syrie? Parce qu'en Syrie, le régime est entre les mains d'une minorité qui s'appelle les Alaouites. Les Alaouites, c'est comme une excroissance des sunnites.
Mm-hmm.
Ce sont comme... Oui. C'est une forme de chiisme. Une forme de chiisme soft, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi. Alors là, tu retrouves Iran, Bahreïn, un morceau de la Syrie, puis 40% de ce qu'était l'Irak.
Puis le Hezbollah au Liban.
Mais ça, le Hezbollah, c'est une créature de l'Iran. Alors là, t'es dans ça, là. Puis Israël arrive, dit, garde, moi, là, je vais vous dire ce que j'ai dans le fond de mon cœur depuis pas mal longtemps. Je suis tanné, cette terre-là m'appartient, elle remonte, ma légitimité sur la terre en question remonte il y a 2000 ans, et puis on va arrêter de faire des singeries, puis de se faire des négociations de paix qui aboutiraient, soi-disant, à la création de deux États qui vivraient en parallèle, puis une ville internationale qui serait Jérusalem. Je pense qu'on est à peu près tous ceux qui s'intéressent à ce dossier-là convaincu maintenant que c'est du passé.
C'est ça qui me désole.
C'est désolant.
Ça me désole parce que les Palestiniens sont victimes d'une injustice historique.
Épouvantable.
Et malheureusement, la réélection de Netanyahou dans les fêtes, là, je pense que c'est le dernier clou dans le cercueil d'un éventuel accord de paix entre Israël et les Palestiniens.
Parce que cette société israélienne, qui au départ était plutôt progressiste, a fini avec des attaques terroristes contre eux par décider que là, on en a soupé, OK? Puis Benjamin Benjamin Netanyahou leur dit, regarde, ils ont fait sauter une petite bombe là, mais on en a fait sauter 20.
Le centre de gravité politique d'Israël s'est déplacé vers la droite, puis c'est ça qui a été confirmé.
Très à droite.
C'est ça
très à droite.
Voilà. Merci, Luc.
Merci, Bernard.
On s'arrête au retour. La frappe de la Sûreté du Québec aujourd'hui contre les Hells Angels. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Dans un instant.